Abordons maintenant votre conception personnelle de la théorie psychanalytique. Dans l'amour de la différence, vous dites que vous avez repéré dans l'œuvre de Freud deux grands mouvements que vous nommez le paradigme hystérique et celui du narcissisme et de la mélancolie. Pour vous, le fantasme de séduction et le refus ou l'acceptation de sa dimension passive seraient le lieu de divergence de ces deux grandes organisations.
Alors, oui, enfin, je pense que c'est banal de distinguer ces deux grands mouvements chez Freud. Moi, je pense beaucoup que, enfin, je ne suis pas la seule d'ailleurs, que ce qu'on appelle le tournant de 1920 est amorcé bien en amont, autour de 1914. Avec remémoration, répétition, perlaboration. Ça, c'est quand même du côté de la méthode analytique que la chose se joue. Et la concomitance avec, pour introduire le narcissisme. Il me semble que là, il y a là une prise en masse, en quelque sorte, de ce qui se passe, à la fois du côté de la déception de Freud, de voir que sa méthode ne marche pas nécessairement, n'est pas aussi féconde toujours. Qu'il aurait souhaité, bien entendu, et puis la découverte du narcissisme, qui est quand même un bastion de la résistance. Alors, pour moi, un bastion de la résistance par rapport à la différence des sexes, évidemment, mais un bastion aussi des résistances dans l'analyse. Parce que, pour en revenir à cette question de la passivité, je pense en effet que le narcissisme, lorsqu'il est exacerbé, hein, quand il y a un surinvestissement narcissique, c'est un aménagement majeur, hein, contre la passivité. Parce que il y a une dimension insupportable dans le narcissisme impliquée par la passivité, à savoir l'état éventuel de dépendance par rapport à l'autre. Hein. Si je suis modifié, si je dépends de l'autre, de son regard, de son humeur, de son amour, de sa haine, etc. Il y a quand même quelque chose qui vient blesser les représentations idéales de toute puissance. Enfin, ces formes-là de représentations idéales, parce qu'on peut avoir des idéaux où la différence, le doute, trouvent leur place, vous voyez, se dire que...
Vous dites... ça vient se heurter au fantasme de toute puissance. Forcément, au fantasme de toute puissance.
Oui, mais même, enfin, peut-être que c'est un peu rapide de dire la chose de ce côté-là. Peut-être qu'il y a une accointance trop immédiate entre ce qui relève de la toute puissance et ce qui relève du narcissisme. Je pense que il y a quelque chose quand même de plus différencié dans le narcissisme. On n'est pas seulement aux prises avec ces fantasmes-là. Ils sont là pour tout le monde, mais il y a quelque chose d'un autre ordre. C'est justement parce qu'il y a eu une confrontation à une toute-puissance impossible à conquérir que les défenses narcissiques se mettent en place, quoi. Et que dans les mouvements comme ça d'affirmation narcissique excessive, il y a à la fois ce qui est de l'ordre du narcissisme le plus affirmatif, le plus arrogant, le plus dédaigneux, mais on sait bien que ce qui est sous-jacent est là et taraude, c'est-à-dire bien juste
sûr.
L'inverse. Quoi.
Bien sûr, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire
le surinvestissement narcissique est déterminé par une fragilité narcissique considérable, quoi. Et on est en permanence là-dedans, quoi. Et c'est ce qui fait qu'en effet, l'action de l'autre n'est pas admise, et dans l'analyse, ça fomente des résistances considérables. Donc, c'est en ce sens que moi, je fais cette différence entre toute la première partie de l'œuvre de Freud qui se construit sous l'égide de la séduction, où effectivement il y a quelque chose d'une possibilité de modification, où l'excitation est présente, où, où l'excitation et la frustration ont toute leur place dans une espèce d'alternance difficile à vivre, mais qui est quand même là, à la confrontation au narcissisme. Alors à partir de, effectivement, 1914, mais il y a aussi tous les textes entre 1914 et 1920, et bon, et la découverte du nouveau dualisme pulsionnel, enfin, du second dualisme pulsionnel, et ses effets au niveau du fonctionnement psychique. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on ne doit pas abandonner un modèle pour un autre. Ça, je veux dire, ce qui me paraît très important, c'est de conserver les deux. C'est ce qu'a fait Freud, et je crois que c'est ce que doit faire tout analyste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est construit autour de la séduction, de la première topique et de la première théorie pulsionnelle,
qu'il faut l'abandonner pour la deuxième.
Qu'il faut l'abandonner pour la deuxième. Et ce qui est intéressant, c'est le passage.
C'est
et comment, justement, à certains moments, si on réfléchit métapsychologiquement à des cures, eh ben, on peut se servir d'un modèle puis de l'autre, sans qu'il y ait de bataille obligée. Enfin, il faut accepter les contradictions et les impasses. Et accepter les contradictions. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que s'il y a des contradictions, il y a des choses... Il y a du conflit, donc il y a de la vie, quoi. C'est ça qui compte. Hein.
À vous lire, vous avez une conception très dynamique, très en mouvement du fonctionnement psychique. Vous déclarez, je m'intéresse au passage, au mouvement, où ça bouge, où il y a des potentialités de changement.
Je pense. Bon, je dois avoir mes raisons d'être attachée au mouvement. Enfin, j'ai des motifs personnels. Je pense que c'est lié à ma personnalité aussi, d'avoir fait ces choix. Mais je pense que, comment dire, sont des choix aussi. Je m'intéresse au mouvement, mais à ce qui les bloque aussi. Je veux dire. On ne s'intéresse pas pour rien à la mélancolie non plus. Je veux dire, vous voyez, je pense effectivement que la vie psychique est prise dans la dynamique. Mais je m'intéresse à ce qui vient immobiliser cette vie psychique. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé aussi. Enfin, quand je travaillais en institution, j'ai travaillé avec des adolescents parce que je pensais qu'à ce moment-là, justement, il y avait une période absolument centrale, quoi, où il y avait une possibilité de changement et qu'il y avait aussi le risque que, justement, ce tournant-là ne soit pas pris.
Eh bien, à propos de la dualité pulsionnelle, vous adoptez le terme employé par Ferenczi, emmêlement, et vous ajoutez « je retiens ce mot, qui résonne en moi bien davantage qu'intrication ». Vous dites aussi « les destins des pulsions sont pluriels et variables », car leurs articulations créent un nombre de configurations singulières individuelles.
Alors, le terme de Ferenczi, je l'ai découvert il n'y a pas très 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 longtemps. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des sollicitations qui viennent de l'extérieur. Il y avait un colloque organisé autour du texte de Ferenczi, « L'enfant et sa pulsion de mort ». Ce qui est quand même une formulation absolument, qui interpelle considérablement. Enfin, ça mobilise quand même quelque chose de très vif. Et dans ce texte, il parle de l'emmêlement pulsionnel. Et pour moi, ça vient bien dire quelque chose du côté de, notamment la seconde théorie des pulsions, pulsion de vie, pulsion de mort, à propos de laquelle il y a des débats entre psychanalystes. Qui se poursuivent aujourd'hui, on est pour, on est contre, etc. Et dans la mesure où j'ai énormément travaillé là-dessus, aussi dans un séminaire qu'on a fait pendant plusieurs années avec Laurence Kahn à l'APF, sur au-delà, enfin, sur la question, pas seulement sur au-delà, mais sur tous les textes en amont et en aval chez Freud, autour de la question de la pulsion de mort, justement, le terme d'emmêlement me convient. Parce que ça montre bien qu'on ne peut pas défaire ce qui s'inscrit dès l'origine dans le mouvement de les mouvements de la pulsionnalité humaine. Enfin, ben, je reviens à Freud, quoi. Avec cette idée que, bien sûr, du côté de la pulsion de mort, on va du côté de la, on va vers la destructivité, vers ce qui, vers la déliaison, comme dit, vers la défaite des liens, mais que de mon point de vue, il y a aussi un autre usage possible des pulsions de mort, à savoir la façon dont elles sont susceptibles de freiner un emballement libidinal excessif. Parce que, et là je rejoins le point de vue de Nathalie Salzman, l'excès d'éros, l'excès de libido peut être aussi délétère. C'est-à-dire qu'il y a c'est là que l'emmêlement de la pulsionnalité me paraît intéressante, avec là aussi un peu plus de l'un que de l'autre. Mais la force de déliaison par les pulsions de mort me paraît intéressante, pas seulement du côté de la destructivité, de la mélancolie, de la destruction même, pas seulement de la destructivité, mais ça me paraît aussi intéressant parce que ça vient dire quelque chose du côté du frein, du côté de ce qui permet de contrôler, de limiter des excès d'éros qu'on peut retrouver par exemple dans la manie, comme, mais ailleurs aussi. Et où il me semble qu'il peut y avoir aussi une fascination par cet excès d'éros dont la dimension toxique pour le psychisme est, pour moi, peut devenir, à mon avis, menaçant. Oui, donc j'aime pas trop intrication. Enfin bon, c'est juste peut-être que c'est juste au niveau du mot. Ouais. C'est comme les images. Voilà, il y a des images qu'on aime plus que d'autres. Il y a des mots qui parlent plus que d'autres. J'aime bien ce mot de Ferenczi. Oui.
Vous dites encore, au fond, pour moi, l'analyse est une manière de ne pas croire au destin.
Ah oui. Votre question me fait penser à celle à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Oui,
ne pas croire au destin, c'est remettre les choses en mouvement. Et dans l'amour de la différence, vous précisez, je vous cite, « À travers la dépendance vis-à-vis du destin, c'est bien la dépendance vis-à-vis des figures parentales qui maintient leur pouvoir. » C'est ce que disait Page avec d'autres mots. Page disait que le but de l'analyse est imago zéro. Je crois que ça se rapproche.
Alors, je retrouve la question à laquelle j'ai pas vraiment répondu tout à l'heure, parce que la question du mouvement, mais vous reprenez là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est parce que justement, je suis très attachée à la question du mouvement et à la question du changement, que je suis devenue psychanalyste. Je veux dire, je ne me fais pas non plus des illusions fantastiques en ce qui concerne le pouvoir de l'analyse. Je sais qu'on se heurte à des difficultés, à des impasses, et justement, je m'intéresse énormément à ce qui ne marche pas dans l'analyse. On est constamment en proie avec des butées, et c'est aussi ce qui nourrit non seulement le travail analytique, le contre-transfert, mais aussi tout ce qui fait partie du contre-transfert, c'est-à-dire le travail métapsychologique et pour moi aussi l'écriture. Puis le fait de parler aux autres, c'est très important, je veux dire, parler à d'autres analystes, pour moi c'est très important.
Parler,
ce qui même se si passe en
dans
parlant.
L'échange de paroles.
Oui, c'est ça, parce que on prend des risques en parlant. Aujourd'hui, je prends des risques en parlant. Je peux dire énormément de bêtises. Dans l'écriture, il y a quelque chose de beaucoup plus contrôlé. Vous voyez, moi, j'écris, je ne sais combien de versions de mes textes. Je recommence pour trouver le mot juste. Bon, donc là, il y a une différence quand même entre la communication orale et l'écriture. Mais moi, je suis très, très attachée aux deux. Donc, pour moi, c'est ça la vie aussi. C'est parler aux autres, c'est écrire aux autres. Donc, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que c'est parce que je suis très attachée au mouvement et donc aussi à ce qui fait obstacle au mouvement que je suis devenue psychanalyste. Et effectivement, Alors là, évidemment, on est obligé d'être modeste, quoi, par rapport à la question du destin. Je pense que je m'insurge, mais je m'insurge aussi contre certains courants analytiques où le destin réapparaît sous la forme d'un déterminisme absolu, dont on sait bien que il y a un déterminisme lié culturel, social, économique, on sait. Ce sont des faits de réalité qui sont irréfutables.
Mais.
C'est pas un déterminisme absolu. Il n'y a pas un destin obligé. Et ce que l'analyse montre, alors, quand j'étais plus jeune, j'y croyais, enfin, quand j'étais jeune, j'y croyais avec. Voilà, c'était une espérance, une foi extraordinaire. Aujourd'hui, je suis plus tempérée, mais je n'ai pas à désarmer. Du fait de l'expérience, c'est-à-dire du fait qu'en effet, il y a quelquefois des situations terribles, mais au sein desquelles il y a quand même quelque chose qui est susceptible d'être remis en mouvement.
C'est remettre en mouvement.
Remis en mouvement. Et ça, c'est transfert.
Tout ce que ça implique.
Oui. Voilà. Et ça, ça, je crois que ça, je continue d'y être. C'est plus qu'attaché. Hein, je suis rivée à ça.
Venons à un autre thème sur l'évolution de la théorie et de la clinique, justement. À propos des cas limites et des pathologies narcissiques, vous mettez en garde les analystes. Ils ne sont pas à l'abri des tentations classificatoires, dites-vous. Vous énumérez la variété des troubles que présentent ces cas, problèmes des limites, devant, dehors, etc., dont on aurait tort, dites-vous, de négliger l'extrême variance pour se contenter du fond commun des caractéristiques faciles à utiliser. Pour vous, l'Œdipe y joue un rôle, plutôt l'Œdipe y joue son rôle, sans qu'il soit nécessaire d'aller chercher le primaire ou le pré-œdipien.
Alors, cette question de la psychopathologie, évidemment, elle est liée à mon parcours, pas seulement à ma formation. Et moi, j'ai enseigné la psychopathologie à l'université. Et je l'ai enseigné avec plus que de l'intérêt. Parce que y a une possibilité justement de transmission. C'est pour ça d'ailleurs que je suis restée fidèle à la pratique en institution, à mon travail en institution, quoi. Bon, donc je suis quand même fidèle aussi à ce principe freudien, c'est-à-dire cet intérêt freudien pour la psychopathologie et à ce qu'il appelle la dialectique du normal et du pathologique. Alors après, à ce niveau, bien entendu. Je fais des distinctions entre les différentes organisations psychopathologiques. Je ne dirais pas que la névrose et la psychose, c'est la même chose. Hein. Je ne dirais pas non plus qu'une névrose et un fonctionnement limite, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, notamment au sein des fonctionnements limites, en tous les cas pour l'expérience que j'en ai, on peut trouver des variantes extrêmement importantes avec certains fonctionnements psychiques qui sont... très désorganisés, et d'autres où les choses sont... En particulier, moi, j'étais pas d'accord avec la définition des fonctionnements limites qui sont ni névrotiques ni psychotiques. On peut dire qu'ils sont et névrotiques et psychotiques, avec des parts différentes chez les uns et les autres.
Plus ou moins,
exactement. Et puis je pense aussi qu'il y a des névroses qui sont sévérissimes. C'est peut-être le fait que j'ai travaillé avec des patients jeunes, mais... Vous voyez arriver à l'hôpital des névroses obsessionnelles, mais d'une gravité. Mais c'était des névroses, ça restait des organisations névrotiques de la personnalité, quoi. Donc, je pense qu'à la fois les différences en psychopathologie sont importantes à avoir en tête, mais là encore, ce qui m'intéresse, c'est les passages. Et je n'entrerai pas dans un système de classification où on dirait voilà comment les choses s'organisent mais de façon exclusive, voilà. C'est ça qui m'ennuie dans la... C'est la dimension éventuellement exclusive des classifications. Moi, je pense qu'on peut, jouer sur les marges.
Oui, il y a des voies de passage.
Voilà. Alors, il y a effectivement, encore une fois, des cliniques qui sont canoniques. Mais il y a aussi dans la marge, et c'est là qu'il y a des possibilités de jeu.
Absolument. Absolument. Vous dites aussi qu'il faut refuser les consensus dictés par l'actualité de l'analyse et s'étayer plutôt sur une lecture de l'œuvre de Freud, profonde, rigoureuse et fidèle.
Je pense que l'œuvre, enfin la métapsychologie freudienne surplombe en quelque sorte les repères ou les influences sociales, culturelles, etc. Et qu'il ne s'agit pas de vouloir à tout prix les appliquer de manière dogmatique, mais qu'il me semble important de respecter cette épistémologie qui consiste à mettre à l'épreuve la théorie par la clinique. Voilà. Alors, je suis pas en accord avec l'idée qu'il faudrait désavouer effectivement un certain nombre de concepts freudiens et d'en proposer d'autres, parce que la psychopathologie contemporaine est très différente de ce qu'elle était. Moi, je pense qu'on peut travailler à nouveau dans la contradiction, à la fois en s'appuyant sur l'héritage et aussi, je ne néglige en aucune manière tous les apports des psychanalystes contemporains. Je veux dire, je m'appuie aussi sur leurs travaux. Mais ce qui me paraît important, c'est de pouvoir conserver cette ligne.
Cette continuité.
Conserver cette continuité avec la possibilité de la mettre à l'épreuve. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, les deux topiques, pour Freud, sont des fictions. C'est des modèles de... Vous voyez, on récuse beaucoup la dimension scientifique de la psychanalyse. Aujourd'hui, on nous rebat les oreilles avec ça, avec une espèce de confusion entre les sciences appliquées et ce qui relève des sciences abstraites, enfin, où on travaille sur des modèles et sur la fiction de ces modèles. Donc là, il y a des malentendus complets. Bon, peut-être que nous, les analystes, on est aussi responsables de ça, hein, de cette... Enfin, peu importe, c'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais moi, je suis très attachée à cette dimension-là. Ce sont des fictions, ce sont des constructions, et des constructions qui relèvent aussi des positions contre-transférentielles. On le voit bien chez Freud. On voit bien comment il passe d'un modèle à l'autre, d'une fiction à une autre, compte tenu de l'expérience, de son expérience contre-transférentielle avec les patients qu'il rencontre. Je pense aussi que les fonctionnements limites, je ne suis pas sûre qu'il y en ait plus aujourd'hui qu'avant, j'en sais rien. Mais avant, ils ne venaient pas à la psychanalyse. On ne les rencontrait pas. Probablement parce qu'il y avait une discrimination beaucoup plus importante, je pense. Je pense que même tout de suite après l'après-guerre, ou en tous les cas dans l'avant-guerre, enfin moi, même quand moi je faisais mes études, il y avait quand même cette idée que la psychanalyse, c'était pour les névrosés.
Oui, donc les choses évoluent.
Donc ça a évolué, mais je ne suis pas sûre que la psycho... Peut-être, en effet, ça je ne récuse pas, peut-être que les modèles culturels actuels, la force du narcissisme, un certain nombre de valeurs qui sont prônées à la fois politiquement, culturellement, infléchissent. C'est probable. Maintenant, est-ce que pour autant le conflit névrotique... le conflit entre instances où l'Oedipe doit sortir de notre champ, je ne crois pas, parce que je pense qu'il y a des organisations oedipiennes, comme je le disais tout à l'heure, qui se prêtent tout à fait à cette version narcissique de la sexualité, on va dire, hein, où la différence n'est pas admise, par exemple, où la frustration est insupportable.
La prise en compte de problématiques nouvelles qui résultent des évolutions qui s'opèrent dans la société ne nécessite-t-elle pas de s'éloigner de cadres de pensée qui ne répondent plus aux changements qui se sont opérés et proposer de ce fait des aménagements de la théorie et des pratiques ? Je prends deux exemples. Le rapport au féminin chez les hommes et chez les femmes d'aujourd'hui n'est plus le même qu'au XIXe siècle. Et la période de latence chez les enfants d'aujourd'hui ne correspond plus à la description classique d'un effacement de l'intérêt pour la sexualité. Que faut-il en penser ?
Alors, j'ai envie de vous répondre que de toute manière, la façon dont les psychanalystes d'aujourd'hui s'approprient leur héritage, les théories psychanalytiques, est nécessairement soumise aux influences culturelles, sociales, sans compter aux expériences qu'ils sont susceptibles de faire en tant que psychanalyste, je veux dire, dans la clinique. Donc, je ne suis pas sûre du tout que nous lisions Freud de la même façon que il y a 50 ans ou sûrement. Plus. Je pense qu'il y a une interprétation du texte freudien qui ne peut pas être la même. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais là, plus précisément. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement un infléchissement. Yes. Parce que pour qu'un texte théorique prenne sens, à mon avis, pas inéluctablement, mais il y a quand même régulièrement la nécessité qu'il puisse s'incarner dans la clinique. S'incarner transférentiellement. Voilà, on se fabrique des objets théoriques à partir de la lecture. Alors bon, j'imagine que quand vous parlez de... C'est de Freud dont vous parlez, des fondements freudiens.
Bien sûr.
Donc là, il y a quelque chose effectivement d'une transformation inévitable. Cela dit, il faut bien avoir des repères.
Oui, bien sûr.
Quand vous dites être un homme ou une femme aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 80 ans, peut-être. Enfin, sûrement.
Le rapport entre les hommes et les femmes.
Sûrement. En tous les cas, les 10... Alors... Et en même temps, effectivement, moi, je n'étais pas analyste il y a 80 ans, donc je ne sais pas ce qu'on entendait sur les divans à l'époque. Donc, ce que j'entends, cela dit, à travers, effectivement, des associations, des scènes, enfin, où là encore, la dimension dynamique et économique est majeure, c'est quand même des productions qui... Si on essaye d'en dégager l'organisation signifiante, alors je ne dis pas qu'elle conforte toujours et absolument les grands fondements de la psychanalyse, mais quand même, les rêves. Alors là, franchement... je ne suis pas sûre du tout que l'essence des rêves soit totalement modifiée.
Modifiée par le temps présent.
Voilà. Donc, si vous voulez, il y a la manière dont les choses se mettent en place au plan de l'inconscient. Et là, ça reste effectivement inaccessible.
Mais la traduction...
Mais voilà, comment est-ce que... Comment ça traverse, quelles sont les formes langagières, visibles, enfin, imageantes, audibles, sont diverses. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on n'écoute pas quand même toujours la même chose? Enfin, traduit différemment, mais...
Oui.
Alors, est-ce qu'il faudrait avoir d'autres modèles? En même temps, Moi, je pense qu'on est profondément modifié en tant qu'analyste par les expériences analytiques qu'on peut faire. Si, effectivement, on est très régulièrement confronté à des résistances qui sont fomentées, noyautées par le narcissisme, bah, on va essayer de réfléchir. Enfin, d'abord, on y est soumis, en quelque sorte. Et puis... Mais moi, je reste quand même ébahie par les productions de l'inconscient, celles qui sont nouvelles, qui continuent d'être totalement inattendues pour moi. Et là, je trouve que ça vaut la peine, enfin, la surprise. Je ne suis pas sûre qu'on puisse être analyste sans attendre quelque chose de nouveau, sans attendre, ça paraît... paradoxal de dire attendre d'être surpris. Mais il y a quand même quelque chose du côté de la surprise. Et puis en même temps, il y a des moments de jubilation, quoi. Je veux dire, quelquefois, des rêves, des associations, des jeux de mots, qui sont tellement à l'image de l'humain, de la psyché humaine. Dans sa continuité, quoi. Alors, qu'on puisse introduire des changements, je suis absolument d'accord. Je suis contre les dogmatismes, le formalisme, le consensus. Donc, il faut bien essayer de faire des essais ailleurs. Mais pour autant, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas pour moi, quoi. Après, je ne sais pas. Alors, du côté de la méthode, puisque votre question porte aussi sur la méthode, je sais que... Je connais bien le débat hein, sur ce qu'on appelle les cures classiques et celles qui ne le sont pas. Je ne sais pas quel est le point de vue qu'on prend pour parler de cure classique. Est-ce qu'on se réfère à l'écoute de l'analyste? Est-ce qu'on se réfère à la position divan-fauteuil, au nombre de séances, aux modalités d'intervention? Alors, moi, je dois dire que je continue d'avoir une pratique de la psychanalyse au sens classique du terme, enfin, de la cure classique, très importante. Peut-être parce que je n'ai plus peur de proposer des analyses.
Plus peur?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes analystes, enfin quand on en discute avec eux, qui craignent de proposer une analyse, et une analyse avec 3 séances par semaine, parce qu'ils ont peur, qu'ils craignent que le patient ne l'accepte pas, que ce ne soit pas possible, etc. Moi, je pense qu'on peut toujours proposer. Après, on n'oblige rien, on n'oblige jamais personne. Il n'y a pas d'obligation. Et là aussi, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Et je ne pense pas que la psychanalyse sur le divan soit absolument réservée à certains patients et pas à d'autres. Je pense que là, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe dans une rencontre singulière avec un patient qu'on peut avoir une idée de ce qui... peut lui convenir ou pas. Je pense que, enfin pour dire les choses de façon absolument grossière, il arrive qu'un patient fragile puisse bénéficier d'une analyse sur le divan parce que le regard de l'autre est particulièrement difficile à supporter pour lui. Alors à ce moment-là, on peut être présent... sans pour autant que ce soit porté par le regard, vous voyez. Et puis, on peut aussi être analyste en face à face. J'ai un jeune patient que j'ai vu il y a assez longtemps qui m'a proposé une formule absolument formidable. Il avait 20 ans, hein, et il connaissait la psychanalyse. Et je ne sais plus, j'avais dû assez maladroitement... lui demander qu'est-ce qu'il souhaitait. Et une psychothérapie, par exemple. Et il m'avait dit une analyse de fauteuil à fauteuil. Formidable. Formidable. Je veux dire, j'ai pas trouvé depuis... de meilleures manières de dire comment je conçois le travail analytique en face à face. Alors, on ne va pas dire que c'est la même chose, parce qu'il y a une autre dimension, il y a d'autres dimensions, la fréquence des séances, la façon, bon, je crois que Fédida avait raison quand il disait que dans le face-à-face, c'est un appel au moi beaucoup plus important et que cet appel au moi, il est probablement nécessaire. Il est probable aussi que l'associativité par rapport au rêve n'est pas la même en face-à-face et sur le divan. On s'en aperçoit quand, vous savez, quand on passe d'un travail en face-à-face à un travail sur le divan, on s'aperçoit que le régime n'est pas le même. Après, alors il y a une chose dont moi je suis tout à fait convaincue, c'est qu'il n'y a pas de... Pour être analyste en face-à-face, il faut être analyste. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'un côté les psychothérapies et de l'autre les analyses. C'est compliqué. Le face-à-face, c'est compliqué. Au moins aussi compliqué que l'analyse, quoi. Donc,
oui. Mais enfin, il faut être analyste, de toute façon.
C'est mon point de vue. Bon, peut-être que les choses vont changer dans les années qui viennent. Mais je trouve ça un petit peu dommage de passer à côté de ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est dommage, globalement, de passer à côté de l'analyse et dommage de passer à côté de la formation, à condition de pas trop la considérer sur un mode dogmatique, sévère et trop surmoi, quoi. Pour moi, la formation, c'est un apprentissage de la liberté, quand même. De pouvoir devenir...
Soit pas trop rigide.
Oui.
Pas trop rigide.
Oui. Alors, le niveau Imago Zéro, il faudra que vous me donniez la référence du texte de Pache. J'ai beaucoup lu Pache quand j'étais plus jeune, mais je ne suis pas sûre que ce soit Imago Zéro aujourd'hui. Hein.
Peut-être pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était ce qu'il disait.
Ouais,
et ouais. Je l'ai bien entendu dire. Et moi, j'ai trouvé que c'était extraordinairement parlant, on peut dire, et clair, comme formule. Oui. C'est ça, le but de l'analyse pour lui, c'était ça, imago zéro.
Oui, c'est-à-dire qu'il entendait probablement une libération par rapport à la lourdeur inconsciente des imagos, c'est
des
ça?
Des imagos parentales, ouais. Évidemment.
Oui, 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 j'entends bien, oui. Moi, je dirais faire avec.
Alors, femme, féminin, féminité, au début de notre entretien, je vous disais que nous pourrions préciser leur signification au cours de nos échanges. Peut-être pourriez-vous maintenant les préciser en manière de conclusion.
C'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Parce que c'est entremêlé. Vous avez dit femme, féminin.
Féminité.
Alors, peut-être on pourrait trouver une formule. C'est comment on devient une femme. Ça renvoie à une identité, une identification plus ou moins troublée, mais en tous les cas, c'est un fait. Le féminin, c'est ce qui est susceptible d'appartenir aux deux. Au sein de la bisexualité, je veux dire appartenir à ce qui est susceptible d'être déplacé de l'un à l'autre, de l'homme à la femme. Et alors, vous voyez, j'ai encore à réfléchir beaucoup parce que je ne confondrai pas, même si je parle d'entremêlement, je ne confondrai pas le féminin et la féminité. Je dirais que la féminité est une des voies d'expression, de représentation du féminin. Mais que pour autant, la féminité n'exclut en aucune manière la part d'identification masculine.
Absolument.
Voilà. Donc...
Il peut y avoir des traits de féminité aussi bien chez l'homme que chez la femme.
Exactement. Et en tous les cas, dans la féminité, il y a une part de masculin. On a beaucoup insisté aujourd'hui sur le féminin chez l'homme. Je pense qu'il y a aussi chez la femme une part de masculin qui est encore une fois liée aux identifications, à la bisexualité. Et c'est ça qui fait aussi le fait qu'on peut intérieurement passer d'une position à une autre, d'une identification à une autre. même s'il y a cet ancrage identificatoire central qui est l'identification à l'enfant. Donc, oui, voilà ce que je dirais en réfléchissant à votre question sur ces trois mots.
Bien, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.